rencontre Histoire de la philosophie de Michel Onfray. 13e année, la résistance au nihilisme. Aujourd'hui, ado, une révolution de velours.
Merci d'être là pour cet avant-dernier cours. Donc, plus question de parler de philosophe, mais nous allons conclure, si bien cette année que les 13 années. Et je vous propose une conclusion en deux temps avec un même personnage. Il s'agira de Pierre Hadot. Habiliter ou réhabiliter Pierre Hadot, c'est un philosophe qui me paraît important parce qu'il il coupe, me semble-t-il, l'histoire de la philosophie du XXe siècle en deux. Et il inaugure une nouvelle époque. Ça se dit assez peu, mais c'est la proposition que je vais vous faire au cours de cette séance et au cours de la suivante. Je voudrais balayer très rapidement 25 siècles d'histoire de la philosophie, puisque c'est ce que nous avons fait patiemment ou plus patiemment pendant toutes ces séances depuis 13 années, pour réfléchir à la question de l'écriture de la philosophie. D'abord, il y a eu des moments dans l'histoire de la philosophie ou dans l'histoire de la pensée. Et on n'a évidemment pas philosophé pareillement avant le christianisme, pendant le christianisme et après la domination du christianisme. Il y a eu des moments importants dans l'histoire. La naissance du christianisme a été l'un d'entre eux, c'est-à-dire l'effondrement de la philosophie antique, l'avènement d'une nouvelle pensée, donc d'une nouvelle civilisation. Il y a eu quelque chose aussi d'important avec la Révolution française, et plus particulièrement l'épisode de la décapitation de Louis XVI en 1793. Ce sont des moments historiques importants, mais ce sont des moments importants pour la philosophie. Et on n'a pas philosophé de la même manière. C'est-à-dire que dans la philosophie antique, il y avait une façon très pragmatique de procéder. On ne philosophait pas pour écrire des livres ou pour dire qu'on était philosophe. On philosophait pour vivre autrement, pour mener une vie philosophique. Et ça a duré pendant longtemps. On peut imaginer que des présocratiques jusqu'à même Saint-Augustin, qui d'une certaine manière incarne cette façon de faire, il y a eu à peu près 10 siècles de philosophie antique. Et vous verrez qu'avec Pierre Hadot, il y a une proposition non pas de revenir purement et simplement à la philosophie antique, ça n'aurait aucun sens, mais de s'inspirer de la philosophie antique pour voir ce que pourrait être une philosophie aujourd'hui, post-chrétienne. À l'époque antique, la philosophie était claire, simple, lisible, audible, et on ne demandait pas à quelqu'un d'être philosophe pour devenir philosophe, presque. On lui demandait de vouloir être philosophe afin qu'il puisse mener une autre existence que celle qui était la sienne. Donc on n'avait pas besoin du vocabulaire compliqué, on n'avait pas besoin de concepts, on n'avait pas besoin de mots obscurs, on n'avait pas besoin de discours obscurs. Il fallait au contraire une extrême simplicité pour viser une existence elle-même d'une extrême simplicité. C'est avec le christianisme que la philosophie se modifie, et à partir du haut Moyen-Âge, début du christianisme, c'est-à-dire 4e siècle de notre ère, où les philosophes commencent à penser pour donner consistance au christianisme, qui n'en a évidemment pas. On le dit toujours, on le dit souvent, et je l'ai beaucoup dit, une religion c'est une secte qui a réussi, et pour qu'elle réussisse, il lui faut un certain nombre de moyens, il lui faut des philosophes, des penseurs, et des glaives, des bras armés. La patristique, les pères de l'Église, ce sont les gens qui ont fait la pensée du christianisme petit à petit, morceau par morceau, ça a pris du temps, mais la philosophie comme mode d'existence a disparu. La philosophie, c'est devenu pour le coup un art de fabriquer des concepts un peu tordus pour justifier des choses un peu tordues. Comment Jésus peut-il être fils de Dieu, mais en même temps le Père tout autant, et Dieu aussi, en ayant une mère qui ne le précède pas, mais qui est vierge et mère tout de même, enfin vous voyez, les choses un peu complexes qu'il s'agit de justifier, il faut bien une arbada de philosophes pour essayer de justifier ce genre de choses, et ça a laissé des traces. Toute cette philosophie, elle dure pendant un bon moment, presque 10 siècles aussi. On a ce qu'on appelle donc la patristique, les pères de l'Église, et au Moyen-Âge, ce qu'on appelle aussi la scolastique, la philosophie de l'école, scolastique. Et c'est une philosophie extrêmement compliquée, réservée aux philosophes de profession, et qui se propose de prélever dans l'histoire de la philosophie antique, Aristote la plupart du temps, la philosophie qui va permettre de jongler avec les questions de substance, d'attributs, de matière. Est-ce qu'on va traduire substance par substantia, ousia en grec, comment est-ce que ça se traduit en latin, comment est-ce que ça va se traduire après en français vulgaire. Donc ce sont des pinaillages intellectuels qui n'intéressent évidemment pas le peuple, les petites gens ou les individus comme ça pouvait être le cas dans l'Antiquité. C'est l'humanisme de la Renaissance, l'humanisme et la Renaissance, mais l'humanisme de la Renaissance qui mettent fin à cette façon de faire. Et des gens comme Montaigne ou comme Érasme, Érasme avant lui et Montaigne après, puisque vous savez que Montaigne est le disciple d'Érasme, eh bien, ce sont des philosophes lisibles, clairs et qui se proposent de changer la vie de ceux qui les lisent. Pas question pour Érasme d'ajouter du discours au discours. Il est question pour lui d'écrire des choses qui permettront aux gens qui le liront de vivre autrement. Et il en va exactement de même avec Montaigne. Et puis quand vous continuez, ce qu'on appelle le grand siècle, dit le XVIIe siècle, et c'est un siècle extrêmement lisible. Descartes est lisible, Pascal est lisible, Malebranche est lisible, Spinoza n'est pas trop parce que ça reste une exposition scolastique, mais la forme est ancienne, mais le fond est extraordinaire chez Spinoza et éminemment moderne. Mais la totalité du XVIIIe français est extrêmement lisible. Si vous prenez Voltaire, Diderot, Helvétius, D'Holbach, Rousseau, qui est un écrivain genevois, mais on va l'annexer pour le coup, ce sont des gens extrêmement lisibles. N'importe qui peut, qui n'aurait pas aujourd'hui une formation philosophique, aborder Diderot, aborder D'Holbach, c'est tout de suite et clairement lisible. C'est avec l'idéalisme allemand, en l'occurrence Kant, fin du XVIIIe, que les choses se corsent et que la philosophie redevient une affaire universitaire et redevient une affaire de spécialistes. La langue allemande, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, a une certaine fluidité en allemand. Si on lit l'allemand, elle est plus facile à comprendre quand on lit un philosophe allemand dans le texte que quand on le lit en traduction, parce que les traductions juxtaposent souvent plusieurs mots pour rendre compte d'un concept qui est fait d'emboîtage de mots en allemand. Donc effectivement, le passage à la langue française n'est pas facile pour les philosophes allemands. Ceci dit, il n'empêche que l'idéalisme allemand est problématique. Il y a une histoire qui court dans la biographie de Kant et qui rappelle que l'un des étudiants de Kant s'est battu en duel parce qu'il disait qu'il fallait au moins 30 années d'université pour pouvoir commencer à comprendre Kant. Les philosophes eux-mêmes disent des philosophes qu'ils n'écrivent pas clairement ou simplement. C'est assez étonnant de la part de gens qui ne sont pas forcément très clairs. C'est le cas de Schelling. Et Schelling écrit dans la préface à un écrit de M. Cousin, Victor Cousin, philosophe français, 1834. « Les Allemands avaient philosophé pendant si longtemps uniquement entre eux que, dans leurs pensées et leurs paroles, ils s'étaient éloignés peu à peu toujours davantage de ce qui est généralement intelligible et que le degré de cet éloignement était devenu finalement presque la mesure de la maîtrise philosophique. » Fichte lui-même, autre philosophe allemand, dans une lettre à Reinhold, datée du 22 mai 1799, écrit « La grande chance de Kant, c'était son obscurité ». Hegel lui-même pointe dans son vocabulaire, le vocabulaire de Kant, toute une obscurité, par exemple avec les termes de jugement synthétique a priori, d'aperception, de transcendant et de transcendantal. Ça, pour le coup, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, parce que Hegel, disant de Kant qu'il n'est pas très clair... Derrière cet épouvantail, et c'est Hegel qui parle de Kant, il dit « derrière cet épouvantail se cachent des pensées très communes ». Ce qui n'est pas faux, mais ça marche pour lui aussi. Sur Hegel lui-même, et je renvoie à Jacques Donte, qui est son biographe français, Jacques Donte écrit de Hegel « il a peu à peu et péniblement, semble-t-il, cultivé le don d'obscurité ». C'est quand même extraordinaire, c'est-à-dire il a un don d'obscurité, mais en plus il le travaille. Et pourquoi faire? Eh bien, pour cacher l'indigence du fond. Citation. Ce qu'il y a de captieux dans cette terminologie, c'est justement qu'on la maîtrise très facilement. Il m'est d'autant plus facile, c'est Hegel qui parle, il m'est d'autant plus facile de parler en ces termes que je peux me permettre d'y dire toutes les absurdités et toutes les trivialités, à condition que je n'ai pas honte, à mes propres yeux, de parler à des gens dans une langue qu'ils ne comprennent pas. Le même Jacques Donte, biographe de Hegel, parle de ses incohérences, de son inintelligibilité coutumière, de sa gymnastique intellectuelle désespérée pour justifier des propositions indéfendables. Toujours citation, d'astuces de présentation ou de langage qui sont assimilées à des jeux de mots, de sa mauvaise foi innocente cachée dans l'usage de la dialectique. Il parle aussi de sa rouerie, de concepts ambigus, de contradictions vivantes. Hegel lui-même écrit dans une lettre à Anita Hammer. Il est plus facile d'être intelligible d'une façon sublime que d'être intelligible d'une façon simple. Donc, qu'on se le dise. La phénoménologie allemande prend la suite et nous dit que plus c'est obscur, plus c'est profond. Et on le sait, Heidegger l'est, obscur, profond, pas bien sûr, mais toute la philosophie française se pâmera devant lui. Et on pourrait donner pratiquement toute la liste des philosophes français qui ont trouvé que Heidegger était génial. Ce serait plus facile d'ailleurs de donner la liste de ceux qui n'ont pas effectué la génuflexion. Et Henri Mechonik avait écrit dans un très beau livre qui s'appelle Le langage Heidegger, pour parler de tous ces gens-là, Sartre, Derrida, Lacan, Foucault, Blanchot, etc., jusqu'à aujourd'hui Cacciari ou Sloterdijk ou Vattimo ou Agamben ou Jean-Luc Marion, en parlant de ces gens-là, ils disaient que c'était des idées grégaires. Et c'était pas si faux. C'est donc dans cette configuration-là, dans une configuration qui est devenue extrêmement obscure avec le temps, avec la scolastique, enfin la patristique d'abord, la scolastique ensuite, avec l'idéalisme allemand, avec la phénoménologie allemande, on voit que le vocabulaire est compliqué, les expressions sont compliquées et qu'on s'éloigne de plus en plus des problèmes existentiels. On ne se soucie plus de la vie des gens et les philosophes ne parlent plus qu'aux philosophes. Et c'est dans cette configuration qu'apparaît Pierre Hadot. Et il me semble que Pierre Hadot tourne une page du XXe siècle et c'est d'autant plus intéressant qu'il tourne cette page sans en avoir l'air. C'est vraiment c'est un curé, c'est quelqu'un qui a une formation de séminariste et on sent vraiment l'évêque, Patelin, gentil, souriant, qui avance ses pièces comme ça sur l'échiquier sans en avoir l'air et qui fait vraiment bouger les choses. Je vais essayer de vous en faire la démonstration cette fois-ci et la fois suivante. Il est un philosophe véritablement. Il y a un moment donné où il parle de lui comme d'un philosophe, alors qu'il est modeste et qu'il a plutôt tendance à dire qu'il est historien de la philosophie, ce qu'il est beaucoup plus. Mais quand il est philosophe, il fait vraiment un travail de philosophe. Et il nous dit que la philosophie n'est pas là où l'on croit. C'est pas là où on s'attend de trouver un philosophe qu'on peut forcément le trouver. On peut le trouver ailleurs. Et de fait, on le sait depuis que Deleuze a décidé dans Qu'est-ce que la philosophie, que le philosophe c'était un créateur de concepts ou un créateur de personnages conceptuels. Depuis qu'on dit ces choses-là, pratiquement toute l'institution nous dit un philosophe, c'est un créateur de concepts, c'est un créateur de personnages conceptuels. On cherche le concept, on le trouve pas, donc il n'y a pas de philosophe. Eh bien, ce que fait Pierre Hadot, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire une espèce de révolution. Voilà pourquoi j'ai intitulé cette séance une révolution de velours. C'est une révolution de velours parce qu'il effectue l'inverse, il procède à l'inverse, c'est-à-dire il n'est pas du tout subversif dans la forme et conservateur dans le fond, mais il est subversif sur le fond et conservateur dans la forme. On est conservateur dans la forme quand on est simple, clair, et qu'on ne croit pas avoir besoin d'être obscur pour donner l'impression d'être profond. On écrit la langue du tous les jours. Même si on a quelques mots un peu compliqués, quelques mots qui peuvent ressortir du vocabulaire philosophique, mais au moins on est susceptible d'être lu par des gens qui feraient l'effort d'augmenter un peu leur vocabulaire. Il est donc conservateur dans la forme parce qu'il est subversif dans le fond. Et être subversif dans le fond, c'est dire la philosophie ne concerne pas les philosophes, les agrégés, les agrégatifs, les docteurs, les doctorants, les gens de l'école normale supérieure, les gens qui sont à l'université, les gens qui fabriquent des dissertations en classe terminale, les gens qui font des rédactions en trois parties, pour etc., etc. C'est pas ça la philosophie, nous dit Pierre Hadot. La philosophie, ça concerne tout le monde. Tout le monde, y compris des gens qui pourraient même être illettrés. Au deux sens du terme, c'est-à-dire ne pas même savoir lire, ou qui n'aurait pas de lettres. La sociologie de Pierre Hadot est extrêmement intéressante, c'est pourquoi je fais toujours la biographie des auteurs dont je parle, parce que il n'est pas agrégé, il n'est pas normalien, Pierre Hadot, il est formé autrement, ailleurs. C'est quelqu'un qui a fait le séminaire et qui est devenu prêtre, et qui a quitté la prêtrise pour faire de la recherche. Donc ça fabrique quelqu'un de tout à fait différent, d'une pensée tout à fait différente. Il n'a pas été marxiste, il n'a pas été psychanalysé, il n'a pas été lacanien. Enfin, lui aussi, comme les philosophes dont j'ai parlé cette année, il a échappé au mode du XXe siècle. Il est modeste, et c'est ça qui est assez intéressant, c'est-à-dire qu'il n'a jamais été tonitruant. Et on a commencé à parler de Pierre Hadot simplement quand Michel Foucault a fait savoir que il s'était trouvé, d'une certaine manière, réveillé de son sommeil dogmatique, Michel Foucault, après avoir lu Pierre Hadot, et notamment un livre qui s'appelle « Les exercices spirituels », parce que, j'ai eu l'occasion de vous le montrer, je pense, Michel Foucault a épousé pas mal des erreurs de son siècle, des erreurs politiques, des erreurs idéologiques, il est devenu structuraliste quand tout le monde était structuraliste, puis quand le structuralisme s'est effondré, il a eu un grand moment de silence, et puis quand il est revenu à la philosophie, il est revenu avec une thématique très inspirée de Pierre Hadot, c'est-à-dire comment construire un sujet. Lui qui nous avait dit que l'homme était mort, son souci c'était comment peut-on construire un sujet? Comment puis-je être moi? Qu'est-ce que ça veut dire se construire dans un monde où tout s'effondre, où tout s'en va, où le marxisme n'a plus sens, où le christianisme n'a plus sens, où le freudisme, l'acadisme, tout ça n'a plus sens du tout? Quand je suis tout seul face à moi-même, qu'est-ce que je peux faire de moi? Eh bien, la construction de la subjectivité, ça devient la grande question de Foucault qui, hélas, va mourir du sida. Et cette construction de la subjectivité, c'est la question de la philosophie antique. Comment puis-je me construire dans l'empire dans la cité grecque, par exemple, ou dans l'Empire romain, moi qui suis rien, pas grand-chose, dans une cité-État, comme Athènes, comme Sparte, ou n'importe quelle autre ville de l'époque, ou dans cet immense empire. Et à partir du moment où Foucault va parler de Pirardot, même si Pirardot dira qu'il y a une espèce de dandysme chez Michel Foucault qui n'est pas le sien, on va commencer un peu à parler de Pirardot. Mais Pirardot était devenu à ce moment-là un vieux monsieur, d'où l'intérêt d'aller voir du côté de sa pensée aujourd'hui. Il n'a jamais dit qu'il était philosophe très haut et fort, Pirardot, parce qu'il a fait son travail de professeur au Collège de France, d'abord à l'École pratique des hautes études, mais ensuite au Collège de France, et qu'il a, il a produit des livres, et que ce ne sont pas forcément des livres toujours très faciles. Il a fallu un ou deux ouvrages, je songe à « Qu'est-ce que la philosophie antique ?», pour qu'on commence à le lire, parce que le livre avait été commandé pour répondre à cette question, c'est une bonne collection aux éditions Folio, « Les gens ne savent pas ce qu'est la philosophie antique, répondez-leur ». Et ce livre est vraiment celui que je conseille à chaque fois que quelqu'un me dit « je vous lis, je vous ai écouté à la radio, je vous ai vu à la télévision, etc. » Mais on commence par quoi, la philo? Et je dis toujours « qu'est-ce que la philosophie antique ?» Lisez ça, et puis après vous verrez les philosophes qui vous plaisent, et vous lirez les philosophes qui vous plaisent quand Ado vous dira ceci sur Platon, ceci sur Aristote, ceci sur, je sais pas, Cicéron, Marc Aurèle, Lucrèce. Eh bien, allez voir, et puis vous construirez votre progression intellectuelle comme ça. C'est-à-dire que il ne dira pas beaucoup qu'il est philosophe et se cachera un peu derrière un travail d'historien de philosophie, mais il y a un moment où il nous dit qu'il est philosophe. Une espèce d'aveu discret dans un très beau livre qui s'appelle « La philosophie comme manière de vivre ». Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait deux livres qui avaient fait beaucoup pour sa popularité. C'est Hélène Monsacré, qui est directrice chez Albin Michel, qui elle aussi a passé commande à Pirardot. Et Pirardot a répondu à des questions et a livré un certain nombre d'informations. Et ce que je vais vous dire de la vie de Pirardot, je le tiens de cet ouvrage. Il nous explique comment il y a une expérience fondatrice chez lui, qu'il ne devient pas philosophe en lisant un philosophe, qu'il ne devient pas philosophe comme Nietzsche après avoir lu Schopenhauer, par exemple, mais à partir d'une expérience particulière, qui est une émotion particulière également, ce qu'on pourrait appeler une épiphanie. L'épiphanie, c'est ce qui apparaît a priori, hein, donc une espèce d'épiphanie existentielle, quelque chose qui a lieu un jour dans sa vie. Il est au petit séminaire, il est externe et il rentre chez lui, la nuit tombée, et il regarde la voûte étoilée. Je le cite, le texte est un petit peu long, mais on voit qui est le personnage et vous allez voir un peu, vous allez entendre un peu ce qu'est son style philosophique. J'ai été envahi par une angoisse à la fois terrifiante et délicieuse. C'est la définition du sublime, hein, l'angoisse terrifiante et délicieuse. J'ai été envahi par une angoisse à la fois terrifiante et délicieuse, provoquée par le sentiment de la présence du monde ou du tout et de moi dans ce monde. En fait, je n'étais pas capable de formuler mon expérience, mais après coup, je ressentais qu'elle pouvait correspondre à des questions comme « Que suis-je ? Pourquoi suis-je ici ? Qu'est-ce que c'est que ce monde dans lequel je suis ?» J'éprouvais un sentiment d'étrangeté, l'étonnement et l'émerveillement d'être là. En même temps, j'avais le sentiment d'être immergé dans le monde, d'en faire partie, le monde s'étendant depuis le plus petit brin d'herbe jusqu'aux étoiles. Ce monde m'était présent, intensément présent. Bien plus tard, je devais découvrir que cette prise de conscience de mon immersion dans le monde, cette impression d'appartenance au tout, était ce que Romain Rolland a appelé le sentiment océanique. Je crois que je suis philosophe depuis ce temps-là, si l'on entend par philosophe cette conscience de l'existence de l'être au monde. Donc vous voyez que il dit, dans un léger aveu, comme ça en passant, « Je crois que je suis philosophe depuis ce temps-là ». Et on voit bien quelle définition il nous donne de la philosophie, non pas l'art de créer des concepts, mais cette conscience de l'existence dans le tout, présent au monde. La présence au monde, la conscience de la présence au monde, c'est ce qui fait le philosophe. Le philosophe est celui qui a conscience d'être présent au monde. C'est donc un sentiment de subjectivité qu'a un individu, un homme ou une femme, en découvrant qu'il est dans la nature et qu'il occupe cette place tout à fait particulière dans la nature. La philosophie est donc pour lui une transformation de la perception du monde. une transformation de la perception du monde. Donc c'est pas du tout la définition qu'on trouve habituellement dans l'histoire de la philosophie au XXe siècle. C'est quelque chose qui coupe l'histoire de la philosophie en deux au XXe siècle. Vraiment. Je pense qu'on peut, à partir de cette date-là, imaginer qu'une autre philosophie est rendue possible. Qui est Pierre Hadot ? C'est un personnage qui nous livre son existence. Je vous disais qu'il était modeste, mais en même temps, ça n'exclut pas la possibilité de dire qui il est, d'où il vient, et il se confie. Je vous disais tout à l'heure que c'était dans cet ouvrage, La philosophie comme manière de vivre, que j'avais pointé tous ces moments biographiques. Il naît à Reims en 1922, sa mère est très pieuse et souhaite qu'il devienne prêtre. Son père est misanthrope et autodidacte. Et il pratique en même temps l'espéranto, à cette époque, c'est assez singulier. Il va finir fondé de pouvoir chez Piper Heitzig, une maison de champagne donc à Reims, et il deviendra aveugle accidentellement. Il découvre l'Antiquité, Pierre Hadot, dans ses études au séminaire. Et de fait, les études au séminaire comportent des parties historiques qui permettent de savoir ce qu'est l'histoire dans laquelle émerge le Christ. Et on parle de philosophie antique à cette époque-là, et c'est donc à ce moment-là que l'Antiquité le séduit. Il parle des châtiments corporels, la rudesse, l'autorité. Il nous dit que sa foi est sans enthousiasme et qu'il aspire à une union mystique qui ne viendra pas. Et on peut imaginer effectivement que ce sentiment qui est le sien, ce sentiment du sublime qu'il a ressenti, au moins une fois, sous cette voûte étoilée en rentrant chez ses parents, eh bien ce sentiment du sublime, c'est probablement ce qui le conduit à lire les mystiques chrétiens, mais les mystiques hindouistes, Platon aussi, qu'il lit à cette époque-là, et il cherche une réponse éminemment païenne à sa question existentielle, bien qu'il se trouve dans un séminaire, et plutôt à son corps défendant, puisque c'est sa mère qui souhaite qu'il le soit. Il fait des études vite fait, bien fait, et se retrouve en passe d'être prêtre à 21 ans, mais n'est pas prêt à la prêtrise, et il devient surveillant un temps pour éviter d'avoir à exercer dans une cure aussi vite et aussitôt. La guerre arrive, il est requis pour le STO, le service travail obligatoire. Il est pistonné, et il ne nous dit pas par qui, comment, mais enfin il l'est, on peut imaginer que ça passe par l'évêché, et il devient ajusteur. Il nous dit qu'il est maladroit, mais décroche quand même un brevet d'ajusteur, et il travaille dans un dépôt, et il est affecté à une grue qui remet les trains en place après que les résistants les aient fait dérailler ou les aient endommagés. Beaucoup de lectures, donc je vous dis tout à l'heure, les mystiques, Platon, et il nous dit qu'il a un souffle au cœur, et que toute sa vie, il va souffrir de problèmes cardiaques. Et il ne donnera pas les détails non plus. J'ai eu une correspondance un peu avec Pierre Hadot, et de temps en temps, il m'y répondait tardivement et me disait qu'il avait des problèmes de santé. Et c'est par la suite qu'on a découvert qu'il avait été opéré 13 fois du cœur et que ces opérations avaient été à chaque fois l'occasion pour lui de mettre en action de la philosophie antique. La douleur, la souffrance, la proximité avec la mort, l'idée que peut-être on va pas se réveiller. Enfin, toutes ces occasions étaient pour lui des occasions de philosopher. Pas de faire des livres, mais de philosopher réellement. En 1944, la guerre est terminée, il devient prêtre. Il est ordonné prêtre à Reims. Et il s'en va faire des études de philosophie à la Sorbonne. Et en même temps, il enseigne dans un lycée de jeunes filles. Il assiste à des conférences d'Albert Camus. Un petit peu plus tard, il fera un compte-rendu de l'homme révolté. Il dit en passant qu'il reçoit un jour un certificat de réfractaire au STO. Il n'a pas été réfractaire au STO, puisqu'il a fait lui-même son STO. Enfin, ça renseigne un petit peu sur les attributions de résistance après-guerre. Et il hésite à cette époque-là entre une thèse sur Heidegger et une thèse sur Rilke. Ce qui n'est pas exactement la même chose, puisque Heidegger est pratiquement aux antipodes de ce à quoi aspire véritablement Pierre Hadot, encore que. On pourrait imaginer que sous le sabir heideggerien, il y a quelque chose comme une aspiration à la nature, au grand tout, chez Heidegger. C'est une idée qui pourrait être défendue. En fait, il ne travaillera ni sur Heidegger ni sur Rilke, et plutôt sur Marius Victorinus, qui est un philosophe antique, et il travaillera pendant 20 ans sur ce sujet-là. Il est un élève de Pierre Courcelle, dont on ne parle pas beaucoup, qui a écrit un très gros livre qui s'appelle « Connais-toi toi-même » et qui est sous-titré « De Socrate à Saint-Bernard ». Je pense que Pierre Courcelle mérite qu'on se penche sur son travail. Pierre Hadot rentre au CNRS en 1949 et il assiste au cours de Hippolyte sur Hegel et Heidegger. Ça aussi, ce sont des gens sur lesquels il faudrait s'appesantir, Jean Hippolyte, des individus qui, comme Kojève, ont été des passeurs. Pierre Hadot est amoureux depuis 1949, bien que curé, Et donc, comme il n'est pas du genre à vivre dans la contradiction, il quitte les ordres en 1952 et il fait savoir qu'il aura donc vécu 20 ans dans l'Église, entre l'âge de 10 ans et l'âge de 30 ans. Il se marie en août 1953 et comme beaucoup de gens qui se marient, il divorce 11 ans plus tard. Son travail va se trouver concentré sur des activités de chartiste, de philologue ou d'historien. Il travaille à sa thèse, il édite des textes. Éditer des textes, c'est-à-dire c'est mettre au point des versions. Et il fait tout ce travail pour Marc Aurèle et les pensées pour moi-même. À moi-même, ça deviendra chez lui à moi-même. Il travaille également, et là il est le premier, sur un philosophe qui s'appelle Ludwig Wittgenstein, dont on n'a pas parlé, on aurait pu en parler, mais Wittgenstein est un auteur multiple, au moins double on dira. Il y a un logicien chez lui, auteur du Tractatus Logico-Philosophicus, et puis il y a un existentiel. C'est un héritier, famille juive extrêmement riche de Vienne, Ludwig Wittgenstein, et il a un frère qui perd un bras à la Première Guerre mondiale, et il passe commande à Ravel d'un concerto pour piano pour un homme qui n'a qu'un bras, ça deviendra le concerto pour la main gauche, et il hérite d'une fortune considérable, colossale, Ludwig Wittgenstein, qu'il donne, parce qu'il n'a pas envie de cet argent, donc il donne et devient instituteur, il part en Norvège, il se construit une petite maison, enfin il y a une dimension extrêmement existentielle chez Ludwig Wittgenstein, qui est extrêmement intéressant, mais qui est un petit peu occulté en France. Lui, il traduit ce texte. Il est l'un des premiers, et peut-être même le premier à le traduire en France. Sa traduction est inédite, et il l'aborde comme un penseur existentiel. Il publie en 1963 un joli petit livre de philosophie antique qui s'appelle Plotin ou la simplicité du regard. Plotin est un philosophe néo-platonicien, disciple de Platon, donc. Il devient directeur à l'école pratique des hautes études, et comme tous les gens qui se sont mariés et qui ont divorcé, il se remarie. Après avoir rencontré Ilse Traut Martin, qui est une femme qui travaille aussi sur la philosophie antique, et il dit que le travail de sa femme a été extrêmement important pour son propre travail. Et de fait, on voit bien Heidegger, Rilke, Marius Victorinus, enfin, il fait des choses un peu diverses et multiples, et son épouse, enfin, celle qui devient son épouse, il l'épouse à Berlin en 1966, publie une thèse qui s'appelle « Sénèque et la tradition de la direction spirituelle dans l'Antiquité », et on voit bien que toute la thématique de la philosophie antique, thématique existentielle, se retrouve dans la thèse de celle qui est devenue son épouse jusqu'à la fin. Je pense qu'elle existe toujours, Madame Pirado. Il publie sa thèse après mai 68 sur Porphyre et Victorinus. Pierre Courcelles, dont je vous parlais tout à l'heure, fait partie de son jury, et il lit à l'époque Paul Rabove, texte important aussi, « Direction des âmes », méthode des exercices dans l'Antiquité. Il publie un article qui s'appelle « Les exercices spirituels » et qui sera finalement le noyau dur d'un livre qui deviendra lui-même « Les exercices spirituels », enfin « Exercices spirituels et philosophie antique », un livre qui paraît en 1981 et dont je vous disais tout à l'heure qu'il avait été un livre important pour Michel Foucault. C'est d'ailleurs parce que Foucault est marqué par cet ouvrage qu'il le fait entrer au Collège de France en 1982. Pierre Hadot, qui n'est pas agrégé, critique l'agrégation en nous disant « Ce concours nuit, c'est une citation, à la formation scientifique et humaine des candidats, car il privilégie trop souvent les qualités rhétoriques, l'habileté à traiter un sujet, même si on le connaît à peine, l'art de parler d'une manière élégante et obscure. » C'est important de la part de quelqu'un qui est dans l'institution de dire effectivement qu'il y a des méthodes qui fabriquent des personnages performants, intellectuellement performants, d'un point de vue de la rhétorique et de la sophistique impeccable, mais en même temps, il s'agit de vérité, il s'agit de science, il s'agit de travail, et Pierre Hadot nous dit que effectivement, l'agrégation n'est pas la meilleure façon de recruter les chercheurs, ou les enseignants. Il attaque également le système de recrutement des universitaires ou des chercheurs au CNRS en nous disant que c'est pas toujours l'intelligence ou la compétence qui fait la loi, mais souvent la cooptation mandarinale, la religion, nous dit-il, sans préciser les choses, la politique ou le syndicat. Il en parle d'autant plus qu'il nous dit qu'il a été longtemps syndiqué à la CFDT. À l'automne 1980, Pierre Hadot prend sa retraite. Il a été 40 ans prof, il a été 40 ans enseignant, chercheur également, et il meurt le 25 avril 2010. Je vous disais donc qu'il y avait une révolution de velours qui avait été opérée par ce monsieur, et comme elle est de velours, on n'a pas vu qu'elle était révolution. Or, il y a une dimension éminemment révolutionnaire, parce qu'il met à mort un certain nombre de choses, et je voudrais finir cette séance avec l'analyse de ce qui a été sa leçon au Collège de France. Quand on est au Collège de France, on est coopté, c'est-à-dire on est présenté par quelqu'un qui vous dit « ce serait bien que tu entres au Collège de France ». On va voir les professeurs au Collège de France et puis on leur dit « je vous aime beaucoup, vous êtes très grand, vous êtes très fort, l'institution est magnifique, j'aimerais bien en faire partie, etc. » Puis les gens votent pour vous, votent pas pour vous, et puis quand vous êtes élu, vous avez un grand exercice inaugural qui est la leçon au Collège de France. J'ai eu l'occasion de dire en début d'année que Pierre Bourdieu s'était cru subversif en disant qu'il allait faire sa leçon sur la leçon. C'était le titre de sa leçon, justement, en disant « mais j'ai analysé les leçons et j'essaie de voir comment fonctionnent les leçons ». Et il pensait qu'il était subversif, le pauvre. Il l'était bien souvent ailleurs, Pierre Bourdieu, mais sûrement pas dans cette leçon, devant les gens qui font partie du collège, de l'administration, et avec un parterre de gens qui sont des agrégés, des normaliens et des chercheurs haut de gamme. Donc ce vendredi 18 février 1983, il dit un certain nombre de choses avec un grand sourire, sans avoir l'air de le dire, mais qui sont des choses extrêmement violentes, extrêmement virulentes. C'est-à-dire ça rompt sur la méthode brutale, souvenez-vous, c'est l'expression qu'utilisait Michel Dufresne pour parler des structuralistes, avec la méthode brutale, agressive des structuralistes, juste pour dire les choses, simplement, doucement, avec des notes en bas de page, sans avoir l'air, en disant des choses comme ça, et comprennent qui pourra. Je ne suis pas sûr que tout le monde ait tout compris à l'époque, parce que l'ironie ne fait pas la loi partout dans ce monde, encore moins l'humour, et encore moins quand c'est extrêmement subtil. Or, il était extrêmement subtil. Il fait une critique du sabir, c'est-à-dire de ce vocabulaire qui fait la loi dans les années 70, et si on fait une petite liste, je dirais, quand on va de Sartre, 62, je crois, la critique de la raison dialectique. Quand on part de Sartre, on voit les structures élémentaires de la parenté de Lévi-Strauss, les écrits de Lacan, de la grammatologie de Derrida, différences et répétitions de Deleuze, les mots et les choses de Foucault, cartographie schizoanalytique de Guattari, le différent de Lyotard, simulacre et simulation de Baudrillard, la distinction de Bourdieu ou totalité infinie de Lévinas. Tout ça, c'est difficile à lire. Difficile à lire, difficile à comprendre, avec beaucoup de sabir, des choses extrêmement compliquées, et au bout du compte, souvenez-vous avec Michel Dufresne, quand on a beaucoup transpiré, et qu'on essaie de dire ce qui se trouve dans ces ouvrages-là, on ne trouve pas forcément grand-chose. Une ou deux intuitions, qui sont des intuitions d'intellectuels, cette idée que l'homme serait mort, et que l'homme serait une fiction construite sur une épistémée, et on fait 300 pages là-dessus, et on dit « et après ?» quoi. Et on ouvre la porte et on voit des hommes dans la rue. On se dit « tiens, c'est drôle, je croyais que l'homme était mort, et le réel me donne l'impression que l'homme n'est pas si mort que ça. » Et donc la philosophie, elle est effectivement, elle est une logique incestueuse, où chacun se cite ou se déteste, mais où on se met à parler de tout autre chose que du monde. Et pour faire cette critique du sabir, il n'a pas peur de le faire avec subtilité, en sachant très bien qu'il a devant lui des gens qui pratiquent ce sabir, des grands acteurs du sabir, ou des gens qui souscrivent au sabir du moment. Il écrit, il dit, hein, puisque c'est une leçon écrite et théoriquement on n'a pas le droit d'improviser, on est censé lire sa leçon, il dit « je n'ai pas cette autorité tranquille que confère l'usage et la maîtrise des idiomes en usage de nos jours dans la République des Lettres ». Il faut mettre le ton, mais on peut imaginer que les idiomes en usage de nos jours dans la République des Lettres, c'est quand même un pavé dans le jardin de tous ces gens. Il ajoute « Mon langage, vous allez encore le constater aujourd'hui, ne sorne pas de ce maniérisme qui semble être maintenant de rigueur lorsqu'on s'aventure à parler de sciences humaines ». C'est une façon extrêmement élégante de dire que il y a une véritable rupture dans cette leçon. Il y a des épigones à l'époque, alors c'est parfois pire, parce qu'il y a Lacan, mais il y a pire, il y a les Lacaniens, il y a Deleuze et les Deleuziens, Foucault et les Foucauldiens, Derrida et les Derridiens. Ces épigones sont dans une espèce de délire, et le reste, pour ceux qui sont encore vivants, où la forme prime le fond. Et ce que fait Pierre Hadot, c'est de dire, effectivement, le sabir ne fait jamais que masquer formellement l'indigence du fond. Et c'est une révolution, évidemment, que de le faire savoir à cette époque-là. C'est une révolution de velours, parce qu'il annonce également ce que j'appellerais la mort du hors-sol philosophique. C'est quoi le hors-sol philosophique ? Eh bien, c'est la philosophie qui fonctionnerait sans philosophe, ou le philosophe qui fonctionnerait sans biographie, ou la philosophie qui n'aurait pas besoin de l'histoire, Donc il y aurait la philosophie parce qu'il y aurait des philosophes, les philosophes auraient des cerveaux, les cerveaux seraient en contact avec les idées pures, et puis les idées pures produiraient un jour des livres qui entreraient en contact avec les lecteurs qui n'auraient aussi qu'un cerveau, des idées pures, et puis etc. Et Pierre Hadot dit, non, pas du tout, un philosophe, c'est une philosophie, c'est un philosophe, un philosophe c'est une biographie dans un temps, et un temps n'est pas un autre temps. Lire un philosophe antique ne doit pas se faire de la même manière que lire un philosophe contemporain. On ne peut pas dissocier le philosophe et la philosophie, le penseur et la pensée, et surtout la philosophie, le philosophe de l'histoire. Il y a dans l'histoire des idées un certain nombre de gens qui, partisans de Proust, qui lui aussi avait des choses à cacher, persistent à dire qu'on n'a pas à aller chercher dans la biographie la clé qui permettrait d'ouvrir les serrures du philosophe, du penseur ou de l'œuvre. Évidemment, tout n'est pas dit quand on a abordé la biographie, mais des choses sont dites qui sont parfois des occasions d'éclairer une pensée. Et c'est assez singulier, il faudrait aussi faire cette histoire de la dénégation de la biographie chez des gens qui avaient des choses à se reprocher. Malraux, qui parle du misérable petit tas de secrets, et qui est chaque individu, alors que finalement il a été trafiquant d'art et résistant très tardif. Et il faudrait aussi un jour faire un véritable travail sur ce qu'a été son authentique participation dans la guerre d'Espagne, mais il vaut mieux effectivement que les biographes n'aillent pas y voir de trop près. Quand ils sont allés voir en matière de résistance, effectivement, ça ne s'est pas fait en sa faveur. Le passé hitlérien de Cioran, dont on vient de faire paraître encore des textes qui sont accablants, le goût qu'avait Barthes pour les jeunes hommes en Tunisie à l'époque, ou les pratiques sadomasochistes de Michel Foucault, qui à l'époque était criminalisé, ou du moins qu'il valait mieux garder discrète ou secrète. Donc on comprend que parfois il y ait des intérêts biographiques à ne pas exposer les biographies, mais Pierre Hadot propose juste que le texte retrouve son contexte. Ça aussi c'est une révolution en matière de philosophie, puisque vous avez vu qu'avec le structuralisme, le texte n'a pas besoin de son contexte. Pour lui, le philosophe est un individu qui invite à mener une vie philosophique. Il s'agit de rompre, et c'est une citation, avec les conduites de la vie quotidienne. La vie quotidienne, c'est un gros mot pour les philosophes. Ça ne l'était pas pour Henri Lefebvre, puisqu'on a eu l'occasion d'aborder sa critique de la vie quotidienne, mais pour les philosophes qui sont en vogue à cette époque-là, la philosophie ne propose rien qui ait à voir avec la vie quotidienne. Il ne s'agit pas pour un philosophe d'être celui qui parle de philosophie, ou un habile conférencier, ou un beau parleur, mais c'est quelqu'un qui met en pratique sa pensée et qui vit en philosophe. Et Pierre Hadot, qui cite peu les philosophes contemporains ou les philosophes en dehors de la période antique, j'ai parlé tout à l'heure de Ludwig Wittgenstein, qu'il a cité un petit peu aussi Heidegger, mais il a également écrit sur Thoreau, que vous connaissez, du moins pour ceux qui ont assisté aux séances que je lui avais consacrées, l'auteur de Walden, au XIXe siècle, et il cite toujours avec bonheur cette phrase de Thoreau qui est une belle phrase. Thoreau disait « Il y a de nos jours des professeurs de philosophie, mais pas de philosophes ». Parlant de la philosophie antique, il nous dit « Il est vrai d'ailleurs que dans toute l'Antiquité, le nombre des charlatans qui se présentaient comme des philosophes a dû être considérable. » Là aussi, comprennent qui pourra. Plus techniquement, il nous dit qu'il faut remettre le texte en relation avec le contexte historique. La question posée par Pierre Hadot, c'est à qui s'adresse ce texte ? Le texte, il n'est pas comme ça en l'air. Les pensées pour moi-même, ça veut dire quoi, pour moi-même ? Est-ce que Marc Aurèle a écrit ça pour quelqu'un ? Ou pour lui-même ? Ou pour lui-même et quelqu'un en particulier aussi, peut-être ? Un fils, une femme, une épouse, une veuve, quelqu'un, l'empereur qui allait prendre la suite ? On peut effectivement se poser légitimement la question. Le philosophe, nous dit Pierre Hadot, c'est d'abord un personnage atypique, inclassable, étrange, remarquable et remarqué. C'est un individu qui tranche par ses comportements. D'abord, il méprise l'argent, nous dit-il. Il ne conduit pas sa vie en fonction de l'argent. On vit frugalement. On ne fait pas de distinction entre les hommes. Le fait de vivre l'égalité dans les faits, pas la proclamer, mais la vivre dans les faits. C'est-à-dire considérer qu'une femme, c'est la même chose qu'un homme, et qu'on peut lui demander la même chose que ce qu'on demande à un homme, et lui reprocher la même chose qu'on se reproche à un homme, parce qu'un homme et une femme, c'est exactement la même chose. Il faut renoncer au bien de ce monde, et pour se concentrer sur l'essentiel, c'est la vieille distinction entre l'être et l'avoir, donc ne pas construire son existence sur l'avoir, mais sur l'être, Mais refuser tout avoir, c'est aussi construire son existence sur l'avoir. Donc il faut trouver effectivement la bonne distance. Pierre Hadot écrit « Étrange donc tous ces philosophes dont le comportement, sans être inspiré par la religion, rompt pourtant totalement avec les coutumes et les habitudes du commun des mortels. » Philosophe, c'est donc pas celui qui semble l'être. Et dans l'Antiquité, il y avait des techniques pour donner l'impression qu'on l'était. On avait porté la barbe ou on n'en portait pas. Les philosophes stoïciens, les philosophes épicuriens avaient la barbe, pas les philosophes pythagoriciens qui portaient des vêtements blancs, les cheveux étaient rasés chez les, enfin, courts, portés courts chez les stoïciens, il y avait des besaces et des bâtons chez les cyniques, enfin, il y avait des façons particulières. Quand on voyait apparaître un philosophe à une dizaine de mètres, on savait s'il était stoïcien, épicurien, cynique ou pythagoricien. Et Pierre Hadot nous dit, mais c'est pas ça qui fait le philosophe, c'est pas l'enveloppe, c'est la façon d'être ou la façon de vivre. Cette façon de vivre, elle passe par la pratique des exercices spirituels qui sont indissociables de la pratique philosophique, les exercices spirituels. Alors qu'est-ce qu'un exercice spirituel ? Il nous le définit précisément dans la philosophie comme manière de vivre. Il dit « Personnellement, je définirai l'exercice spirituel comme une pratique volontaire, personnelle, destinée à opérer une transformation de l'individu, une transformation de soi. » Donc il s'agit de penser pour être autrement, de penser pour vivre différemment. À l'origine, et voilà pourquoi il n'est pas un hasard que ce soit un prêtre qui pense la question des exercices spirituels, parce que sa source, c'est Ignace de Loyola. Et Ignace écrit des exercices spirituels et nous dit que ces exercices sont des méditations graduées pour parvenir à une espèce de sainteté chrétienne. Et je voudrais vous lire un passage de saint Ignace de Loyola. Par ce terme d'exercice spirituel, on entend toute manière d'examiner sa conscience, de méditer, de contempler, de prier vocalement et mentalement, et d'autres opérations spirituelles, comme il sera dit plus loin. De même, en effet, que se promener, marcher et courir sont des exercices corporels, de même appelle-t-on exercice spirituel toute manière de préparer et de disposer l'âme pour écarter de soi toutes les affections désordonnées et, après les avoir écartées, pour chercher et trouver la volonté divine dans la disposition de sa vie en vue du salut de son âme. Alors évidemment, la volonté divine, on voit bien que c'est Dieu pour Ignace, mais que pour le philosophe, la volonté divine, ça peut être ce que veut la nature. Ça dépend si on est stoïcien, épicurien, si on est déiste, si on croit en Dieu ou pas. Il donne des exemples d'exercices spirituels, Pierre Hadot, par exemple, se préparer à la mort, la nôtre, mais aussi la mort de ceux qui nous sont chers. On n'a pas à être surpris par ce qui advient tout le temps. On va faire semblant de découvrir que ce qui a lieu parce que ça a lieu pour tout le monde, pour les gens qu'on aime et pour soi-même également. Donc déjà, se faire à l'idée que ça doit advenir pour ne pas être surpris ou pris par surprise. Se contrôler également, s'exercer à contrôler sa colère. Et je le cite, donc s'exercer à contrôler sa colère, sa curiosité, ses paroles, son amour des richesses, en commençant à s'exercer dans les choses les plus faciles pour acquérir peu à peu une habitude stable et solide. C'est une façon de dire qu'avec l'exercice, l'habitude va faire que tout ça deviendra une seconde nature. Sculpter sa propre statue, c'est une expression qu'on trouve dans les Énéades de Plotin, qui est une expression chère aux francs-maçons, mais qui fonctionne bien dans la logique philosophique antique. Ce qui veut dire, ça passe par des choses extrêmement simples et triviales, hein, c'est travailler par exemple son régime alimentaire, sa diététique, son hygiène. Un penseur, c'est d'abord un corps qui pense. Et ce corps, il faut l'entretenir. Il faut savoir quand il faut dormir, ce qu'est bien dormir. Pas trop, pas trop peu. C'est la même chose avec la sexualité. Pas trop, pas trop peu. Je n'ai pas d'idée à vous dire là-dessus, je ne sais pas ce que c'est que le trop, je sais pas, le trop peu, on voit un peu ce que ça peut être, mais il y a des techniques précisées, et Foucault a travaillé beaucoup sur ces questions-là, les garçons, pas les garçons, les filles, pas les filles, les femmes, les épouses, pas les épouses, combien de temps, souvent, comment, de quelle manière. Enfin, ça c'était des exercices, théoriquement, si on démarre le projet Cosmos, Décadence et Sagesse, on aura l'occasion de parler de sexualité, je vous demande d'être patient. Et de vous retenir en attendant. Et il s'agit donc de pratiquer une ascèse corporelle, mais aussi une ascèse mentale, intellectuelle, avec des lectures. Et les lectures ne sont pas des lectures de distraction. Mais il faut pas beaucoup lire, mais méditer. méditer, dialoguer, réfléchir, se confesser, et c'est un mot qui deviendra ce que vous savez dans le christianisme, mais la confession suppose des échanges et des corrections mutuelles avec les amis. La philosophie, à l'époque, elle n'est pas l'affaire d'un professeur qui donnerait des cours avec des gens qui rentreraient chez eux. La vie philosophique, c'est une vie en communauté. On vit dans une communauté. Le lycée chez Aristote, l'académie chez Platon, la stoa, enfin le portique chez les stoïciens, le cynosarge, le cimetière pour chiens, chez les cyniques. Et il y a donc un lieu dans lequel les philosophes, le jardin d'Épicure bien sûr, hein, le philosophe enseigne et les disciples sont enseignés. Et donc on peut échanger et avoir une correction mutuelle et fraternelle. Et contempler, ça fait aussi partie des exercices spirituels. La relation au maître suppose donc un certain type de relation au discours. Le discours est édifiant, mais il est édifiant au sens où il permet une édification de soi, une construction de soi. Comme on met pierre sur pierre pour finir par bâtir un édifice, eh bien, une existence, c'est exactement la même chose. Et il y a des dogmes, mais au sens premier du terme, c'est-à-dire des principes de la philosophie, et ces principes, ils sont simples et clairs. Et ce sont des principes qui sont parfois fabriqués pour qu'on puisse les mémoriser. Par exemple, sur la mort, chez Épicure, Épicure dit « la mort ne nous concerne pas, parce que si la mort est là, je n'y suis pas, si je suis là, elle n'y est pas ». C'est un chiasme. Et en même temps, l'idée, quand vous avez compris le chiasme, c'est-à-dire l'espèce de balancement, vous comprenez et vous apprenez. Et l'idée, vous l'avez tout de suite en tête. Et cette idée, vous allez pouvoir la méditer. Et vous allez pouvoir la méditer quand vous serez dans les couloirs d'un hôpital, devant le corps de quelqu'un qui est mort et que vous aimiez. Et cette idée, vous allez dire, bon ben voilà, la mort, elle est là, mais c'est pas moi. Donc c'est l'idée de la mort. Et cette idée de la mort, je peux travailler sur cette idée. C'est ce que nous disent les stoïciens. Travaillez sur vos perceptions, sur vos représentations. Donc ce sont des exercices philosophiques qui sont enseignés. Les pythagoriciens enseignent les leurs, les épicuriens enseignent les leurs, les stoïciens enseignent les leurs. Et par exemple, les philosophes pythagoriciens proposaient l'examen de conscience. Vous voyez bien comment le christianisme récupère toutes ces choses-là pour la culpabilité. T'as pas tripoté ta zigounette, t'as pas volé des bonbons à ton petit copain, t'as pas dit des choses, etc., etc. Donc l'examen de conscience était fait pour faire émerger matière à culpabilité. Dans le christianisme, là, pas du tout. L'examen de conscience est l'occasion de mesurer la distance qu'il y aura eu entre la théorie et la pratique. Il y a une théorie philosophique et nous avons eu une pratique plus ou moins philosophique. Et si elle est plus ou moins philosophique, eh bien, on le saura quand on aura pensé sa journée. Ce sont des occasions de s'améliorer. Ce sont des occasions de se dire, normalement, demain, je devrais mieux faire ce que je n'ai pas bien fait, ou ce que j'ai mal fait, ou ce que j'ai fait de manière imprécise. Les épicuriens, eux, par exemple, nous disent comment il faut nous habiller. Les vêtements doivent être utiles, point à la ligne. La nourriture, c'est la même chose. C'est fait pour se nourrir, la nourriture. C'est pas fait pour autre chose. Il faut refuser les honneurs, nous disent les épicuriens, mépriser les richesses, renoncer à la chose publique, vivre retiré, entre amis. Il faut pratiquer l'examen de conscience, eux aussi, comme les pythagoriciens, pratiquer la confession amicale, la correction publique. Il faut, nous disent les épicuriens, vouloir les choses qui nous procurent du plaisir, mais le plaisir, ça n'est pas un plaisir excessif. Le plaisir, il existe quand on a fait disparaître le désir. Quand on a fait de telle sorte que ce qui nous tenaillait a disparu. Et le plaisir, c'est l'absence de souffrance, et c'est essentiellement la souffrance. Il faut aussi nous rappeler les souvenirs heureux. Nous sommes dans un instant présent, et seulement dans l'instant, le passé a eu lieu, mais le passé est susceptible d'une réactivation. Pas la peine d'aller réactiver les souvenirs douloureux. Et je serai sans cesse dans la haine de ceux qui m'ont fait du mal. Non, ça sert à rien d'être dans la haine de ceux qui font du mal, parce que ça donne au mal une espèce d'écho dont il n'a pas besoin. C'est-à-dire qu'il faut savoir s'occuper du passé uniquement pour restituer ou restaurer les souvenirs heureux. Il faut savoir habiter l'instant, le présent. Il faut se trouver dans une espèce de gratitude à l'endroit de la vie et de la nature qui nous donne de la joie si on la cherche. Si on la cherche, on peut la trouver. Si on ne cherche pas la joie, on ne la trouvera pas. Il faut pratiquer la physique comme une occasion de sagesse. Et ça permettait, par exemple, aux philosophes épicuriens de nous dire « Mais il n'y a que de la matière, c'est pas la peine de vous inquiéter. La mort, ça n'est jamais que de la décomposition de matière. Et quand la matière est décomposée, eh bien, cette composition qui fait que vous pouviez souffrir, elle n'est plus. Donc quand vous êtes décomposé, vous n'avez plus le matériel physique qui fait que vous pourriez vous souvenir, souffrir ou être malheureux. Donc la mort n'est pas une souffrance, ça n'est jamais que l'idée de la mort qui est une souffrance. La physique nous permet de savoir que nous sommes dans un monde où effectivement il n'y a rien à craindre de Dieu qui nous pourrirait la vie dans un arrière-monde. Il n'y a pas d'arrière-monde, il n'y a pas de Dieu. Et si des dieux existaient, nous disent les épicuriens, eh bien de toute façon ils existeraient de manière matérielle et ils existent déjà et ils sont des espèces d'invitation à cette espèce d'ataraxie. Les stoïciens, eux, nous proposent des idées extrêmement intéressantes en nous disant distinguez ce qui dépend de vous et ce qui ne dépend pas de vous. Ça ne sert à rien de vous exciter sur ce qui ne dépend pas de vous. Vous êtes nés, on est tous là, personne n'a choisi. Personne n'a choisi d'être, alors on peut choisir de n'être plus en se suicidant, mais personne n'a choisi d'être et quand on est, on subit cette chose-là. Après, on fait ce qu'on veut du fait qu'on soit, mais ça ne dépend pas de nous. Que nous soyons dans le temps, ça ne dépend pas de nous. Que nous vieillissons, ça ne dépend pas de nous. Il y a plein de choses qui ne dépendent pas de nous, et les stoïciens nous disent, ça sert à rien de se révolter à l'endroit de ce qui ne dépend pas de nous. En revanche, ce sur quoi vous avez du pouvoir, alors lâchez-vous. Travaillez ce sur quoi vous avez du pouvoir. Vous n'avez pas de pouvoir sur le fait qu'une personne que vous aimez meure. Mais vous avez du pouvoir sur la représentation que vous vous faites de cette mort. Les stoïciens nous disent également qu'il faut voir les choses du point de vue de Sirius. Comme si vous étiez sur Mars d'une certaine manière. Et Pierre Hadot écrit un très beau livre qui s'appelle « N'oublie pas de vivre », une phrase de Goethe, et il consacre un chapitre à cette question du « voir les choses avec de la hauteur », s'élever et voir les choses avec de la hauteur. Les stoïciens proposaient également de consentir aux événements, ils invitaient à ce qu'on s'y prépare, et Pierre Hadot nous dit « la théorie pour elle-même n'y est jamais considérée comme une fin en soi ». Chez les philosophes antiques, ça ne sert à rien, la théorie. On ne fait pas de la théorie pour faire de la théorie. Quand on pense, c'est pour pratiquer ce qu'on aura pensé. Autre citation, « Philosopher à cette époque-là, c'est choisir une école, se convertir à son mode de vie et accepter ses dogmes. » Il est bien évident, et on conclura sur cette révolution de velours en disant que toute la manie structuraliste disparaît, il faut mettre le texte en relation avec son contexte. Je cite Pierre Hadot, « Il faut tenir compte de toutes les conditions concrètes dans lesquelles ils écrivent, les philosophes de l'Antiquité, hein, de toutes les contraintes qui pèsent sur eux, le cadre de l'école, la nature propre de la philosophia, les genres littéraires, les règles rhétoriques, les impératifs dogmatiques, les modes traditionnels de raisonnement. » On est loin évidemment de la mort de l'auteur, de la mort du sujet, de la toute-puissance du lecteur que nous proposent les structuralistes. En bas de page, mais un petit coup de pied aux structuralistes, et Pierre Hadot dit dans une note qu'il s'oppose à Victor Goldschmidt, et il renvoie un article de Goldschmidt qui s'appelle « Remarques sur la méthode structurale en philosophie », un article paru en 1981, parce que Goldschmidt dit « la civilisation gréco-romaine est vite devenue une civilisation d'écriture, ce qui permet donc de lire les textes de la philosophie antique comme on lirait des œuvres contemporaines ». Et Pierre Hadot dit « pas du tout ». À l'époque, c'est l'oral qui triomphe. Un texte n'est jamais écrit comme on écrit aujourd'hui un texte. Le texte est structurellement attaché à l'oralité de l'enseignement à cette époque-là. Ce qu'on appelle aujourd'hui un livre, c'est la plupart du temps de l'oral qui aura été consigné par écrit. C'est parfois un esclave qui prend des notes. Le philosophe parle et l'esclave prend des notes. C'est comme ça qu'on a par exemple les entretiens d'Épictète ou le manuel d'Épictète. Ce sont des notes qui parfois sont lues à haute voix par un esclave à son maître ou qui sont lues à haute voix pour soi-même. C'est un petit peu plus tard que la lecture muette arrivera. C'est-à-dire aujourd'hui, quand vous lisez un livre, vous ne le lisez pas à haute voix. Eh bien, c'est une invention assez tardive. Et ça veut dire que les textes de l'Antiquité n'étaient pas faits pour être lus à voix intérieure, disons-le comme ça, mais ils étaient faits pour être lus, pour être réceptionnés, excusez-moi le mot qui n'est pas très joli, mais de manière orale. La contrainte orale, elle oblige, nous dit Hadot, à des formules particulières, rythmées, stéréotypées, pour qu'on puisse mieux les mémoriser. Donc on associe des idées, il y a des stéréotypes de l'époque qui nous échappe aujourd'hui et qui donne l'impression d'être confus, contradictoire, hésitant ou répétitif. Mais effectivement, si vous vous dites que c'était des choses dites, vous pouvez mieux comprendre que ça prenne cette forme-là. À l'époque, on n'est pas converti par un livre, on est converti par une parole. On est converti parce que on sait qu'il y a des philosophes, on les entend parler, on est séduit par leur discours, on va à l'école et on les écoute, on les entend, on parle, on discute, etc. Le maître, à l'époque, s'adresse à chacun en fonction de son niveau. S'il a un sénateur romain, par exemple, ou s'il a un portefeuille, il ne va pas s'adresser de la même manière aux sénateurs et aux portefeuilles. Donc c'est le travail du maître que de s'adresser à son disciple en fonction de son niveau. Citation de Pierre Hadot, « Nombre de philosophes, et non des moindres, n'ont pas voulu écrire, considérant à la suite de Platon, et sans doute avec raison, que ce qui s'écrit dans les âmes par la parole est plus réel et plus durable que les caractères tracés sur le papyrus ou le parchemin. » C'est une référence qui est faite à Platon dont on connaît les dialogues, mais dont on ignore l'enseignement oral. Il y a un enseignement ésotérique chez Platon, un enseignement exotérique. Ésotérique, c'est concentré sur des disciples choisis. Exotérique, c'est pour tout le monde. Ce que nous faisons à l'instant est exotérique. Eh bien, il y a un enseignement ésotérique chez Platon, mais évidemment, comme il était ésotérique, on ne sait pas trop ce qu'il était. Le texte est donc une préparation ou un prolongement d'éducation par la parole. Les notes sont susceptibles d'être dites à l'oral pour que chacun puisse y trouver son compte. Et la plupart du temps, quand on lit ces textes qui nous sont parvenus, ils sont presque tous construits sur une phrase à laquelle on peut répondre par oui ou par non. Du genre « la mort est-elle un mal ? Le sage se met-il en colère ? » Et puis on parle. Quelqu'un pose la question, et alors qu'est-ce qu'un sage ? Qu'est-ce que la colère ? Est-ce qu'un sage peut se mettre en colère ? Quand peut-il se mettre en colère ? Parfois la colère peut être légitime, parfois elle ne l'est pas, etc. Et ce discours peut être retranscrit, et ça donnera le texte qu'on lit aujourd'hui. Bien sûr, il faut savoir comment il aura été produit, quelles sont les conditions de production du texte pour pouvoir le comprendre, nous dit Pierre Hadot. Il s'agit d'édifier les disciples à l'époque, les disciples, et seulement les disciples, et pas le plus grand nombre. Aujourd'hui, on veut toucher le maximum de gens. À l'époque, le philosophe veut toucher des gens qui sont susceptibles de mener une vie philosophique. Il ne veut pas un lectorat, il veut des philosophes qui se convertissent à la vie philosophique. Comprendre une œuvre de l'Antiquité, écrit Pierre Hadot, c'est la replacer dans le groupe dont elle émane, dans sa tradition dogmatique, dans son genre littéraire et dans sa finalité. Il faut chercher à distinguer ce que l'auteur était obligé de dire, ce qu'il a pu ou n'a pas pu dire, et surtout ce qu'il a voulu dire. Car l'art de l'auteur antique consiste à utiliser habilement, pour arriver à ses fins, toutes les contraintes qui pèsent sur lui et les modèles fournis par la tradition. Fin, évidemment, du structuralisme dans cette façon de voir les choses. Il y a un petit moment, mais là je déborde vraiment beaucoup aujourd'hui, où il y a une façon aussi de tacler les gens qui l'écoutent. Il parle du bricolage à un moment donné, Pierre Hadot, et c'est un mot qu'il utilise en disant, pour reprendre un mot actuellement à la mode, c'est une façon à l'époque de tacler Claude Lévi-Strauss, qui est lui aussi professeur au Collège de France, qui écrivait dans La Pensée Sauvage qu'il fallait opposer le bricoleur à l'ingénieur, on n'a pas le temps de détailler ces choses-là, ou Deleuze et Guattari qui, dans l'Anti-Édipe, avaient parlé du bricolage, et dans un entretien de 72, les deux philosophes, enfin Deleuze et Foucault, parlaient de la boîte à outils en nous disant que la philosophie c'était une boîte à outils. Donc on voit bien qu'en passant, paf, une petite gifle, au Collège de France, à Lévi-Strauss et à Deleuze et Guattari. Il y a donc une modernité de la philosophie antique chez Pierre Hadot, qui conclut ainsi sa leçon. La leçon est, citation, ce qu'on appelait dans l'Antiquité une épideixis, un discours d'apparat dans la droite ligne de ceux qu'au temps de Libanius, par exemple, les professeurs devaient déclamer pour recruter des auditeurs en essayant à la fois de démontrer la valeur incomparable de leur spécialité et de faire étalage de leur éloquence. C'est bien qu'il aura des auditeurs, quand on est professeur au Collège de France, on en a. Donc, ironie là encore. Citation, le souci du destin individuel et du progrès spirituel, l'affirmation intransigeante de l'exigence morale, l'appel à la méditation, l'invitation à la recherche de cette paix intérieure que toutes les écoles, même celles des sceptiques, proposent comme fin à la philosophie, le sentiment du sérieux et de la grandeur de l'existence, voilà, me semble-t-il, ce qui, dans la philosophie antique, n'a jamais été dépassé et reste toujours vivant. Je conclue là-dessus, dire de la philosophie qu'elle suppose le sentiment du sérieux et de la grandeur de l'existence, en nous disant que ça reste une pensée d'actualité, c'était une façon, me semble-t-il, d'ouvrir une nouvelle ère pour la philosophie, une nouvelle ère dans laquelle nous nous trouvons. On peut conclure, pour le coup, définitivement, que la mort de l'homme annoncée par Michel Foucault est vraiment morte et que ça n'aura duré qu'un temps, cette mort de l'homme. Je vous remercie.
C'était Contre-histoire de la philosophie de Michel Onfray. Prise de son, France Bleu Basse Normandie. Collaboration technique, Centre Dramatique National de Normandie. Réalisation, Anne-Pascale Desvignes. Demain, dernier séminaire de la contre-histoire.